Le bazar aux nouvelles. Petite histoire, poème.
C'est-à-dire ?
Conte, récit.
C'est à ouïr.
Le bazar aux nouvelles. Des mots d'auteur. Des voix d'amateur. Des oreilles d'auditeur. Soyez toutes oui, non ?
Non.
Conte du Pan Chatantra de Léonard Clark.
Les histoires du Pan Chatantra furent inventées à l'origine par un prêtre vieux et sage en l'an 200 avant Jésus-Christ. Pour enseigner à trois jeunes princes indiens, paresseux et gâtés, l'art de vivre.
Elles furent transcrites en sanskrit par une main anonyme et ont depuis ravi tous les lecteurs et leur approche humoristique à la fois directe et subtile.
Les souris et les éléphants.
Il était une fois une ville depuis longtemps désertée par les hommes, où les maisons et les temples n'étaient plus que ruines.
Et dans ces ruines, dans les coins et les recoins, vivaient heureuses des souris.
Elles partageaient leur temps entre fêtes, spectacles, mariages et banquets. Leur vie n'était qu'une longue suite de plaisirs.
Un jour, le roi des éléphants, qui régnait sur plus de 1000 éléphants, entendit parler d'un lac où l'eau abondait et qui se trouvait non loin des ruines où résidaient les souris.
Il décida de s'y rendre avec ses compagnons pour qu'ils puissent étancher leur soif à tout loisir.
Hélas, le troupeau sur son chemin écrasa les maisons des souris et piétina un grand nombre d'habitantes.
Les souris survivantes se réunirent pour commenter en détail le terrible malheur qui venait de les frapper.
« Ces maladroits d'éléphants sont en train de nous exterminer. S'ils reprennent encore une fois ce chemin, il ne restera bientôt plus personne pour raconter notre histoire. »
Il existe un vieux proverbe qui dit « La patte d'éléphant et l'haleine du serpent sont mortelles. Les rois peuvent tuer d'un sourire. Les méchants peuvent faire beaucoup de mal en faisant semblant d'être gentils. »
« Il faut que nous trouvions quelque chose pour que cela ne se reproduise plus, »
dirent-elles.
Après délibération, quelques-unes d'entre elles se rendirent au lac, s'agenouillèrent humblement devant le roi des éléphants et dirent poliment
« Puissant monarque, non loin d'ici se trouve notre demeure. Cela fait très longtemps que nous autres souris vivons là. Nous y sommes merveilleusement heureuses et le monde nous semble beau. Mais si vous et vos amis persistez à traverser notre ville, il ne restera bientôt plus aucune d'entre nous. Nous vous supplions, si votre cœur est bon, d'emprunter un autre chemin. » Sans compter que nous pourrions un jour vous être utiles. »
Le roi écouta attentivement la déclaration des souris et décida que les éléphants, à l'avenir, suivraient une autre voie.
Peu de temps après, les chasseurs, désireux d'offrir à leur roi quelques éléphants, s'installèrent dans la région.
Ils étalèrent un grand filet de cordes, le placèrent au-dessus d'un trou pratiqué dans le sol. Puis, ils entourèrent le troupeau d'éléphants et au bout de 3 jours, ils réussirent à capturer le roi des éléphants ainsi que plusieurs autres.
Avec bien des difficultés, ils le hissèrent hors du piège et l'attachèrent avec un énorme tronc d'arbre, de sorte qu'il ne pouvait plus bouger.
Lorsque les chasseurs se retirèrent, le roi des éléphants chercha désespérément qui pouvait lui venir en aide.
Il pensa alors aux souris. Peut-être serait-elle capable de faire ce qu'il attendait d'elle. Aussi murmura-t-il à un de ses vieux serviteurs qui avait réussi à échapper au filet.
« Va dire aux souris que je suis prisonnier. Demande-leur si elles veulent bien m'aider. »
Le vieux serviteur arriva bientôt dans la cité des souris. Dès qu'elles apprirent la nouvelle, elles se rassemblèrent par milliers et se dirigèrent vers l'endroit où les éléphants étaient prisonniers.
Se mettant immédiatement au travail, elles commencèrent à ronger toutes les cordes qui attachaient les pattes des éléphants.
Grimpant même dans les arbres, elles réussirent à couper le filet et les éléphants, reconnaissants, retrouvèrent la liberté. Le daim.
Dès l'âge de 6 mois, j'étais très entreprenant. Je courais toujours devant le troupeau, puis attendais que les autres me rattrapent. Il faut expliquer que nous autres daims, nous avons 2 manières de courir. Nous appelons cela le bond et la course. Mais à cette époque, je ne connaissais que la course. Un jour que je gambadais joyeusement, je me trouvais soudain séparée de mes amis. Cela m'effraya fort, car je ne comprenais pas où ils avaient pu aller. Mais lorsque je regardais autour de moi, je les aperçus un peu plus loin. Je ne compris pas cependant que j'étais bel et bien pris au piège, tandis qu'ils y avaient échappé. Et ceci simplement parce qu'ils savaient se servir du bond auquel je ne connaissais rien, moi. Lorsque j'essayais de les rejoindre, je n'y parvins pas, et je me trouvais si entortillé dans le filet des chasseurs que je m'affalais sur le sol. L'un des chasseurs s'approcha. Il vit alors que je n'étais qu'un faon et ne put se résoudre à me tuer sur le champ. Il me prit très doucement dans ses bras et me ramena chez lui. Lorsque j'eus un peu grandi, il m'offrit en cadeau un jeune prince qui me prit en affection. Le prince fut si enchanté de me voir qu'il donna au chasseur une belle somme d'argent et s'occupa de moi le plus gracieusement du monde, veillant à ce qu'on me baignât régulièrement, qu'on me frottât avec les parfums les plus suaves et qu'on me donnât à manger ce que je préférais. Les femmes et les courtisans du palais venaient me caresser et me câliner. Pourtant, certains avaient des gestes si brutaux que mes yeux, mes oreilles, mon cou, mes pattes, mes sabots et d'autres parties de mon corps furent bientôt meurtries. Ce traitement eut pour résultat de m'épuiser et de me rendre souvent irritable et de mauvaise humeur. Un jour, un terrible orage éclata. Mon prince, allongé sur un divan, observait les éclairs et écoutait le tonnerre. Je me mis soudain à songer au mien avec une extrême nostalgie. Et sans réfléchir, je soupirai à haute voix. Oh, quand rejoindrai-je mes compagnons ? Le prince sursauta à mes paroles et, terrifié, s'écria :
Qui a parlé ?
Il me regarda et conclut rapidement qu'on lui avait jeté un sort, parce qu'il avait entendu un daim parler le langage des hommes. Un démon s'était emparé de lui, pensa-t-il, et pris de terreur, il se précipita hors de sa chambre. Il fit appeler ses sorciers et ses enchanteurs pour qu'ils le délivrent de ses démons, leur promettant puissance et richesse s'ils y parvenaient. Et les courtisans qui autrefois s'étaient montrés si gentils à mon égard se mirent à me bourrer de coups, à me frapper avec des bâtons et à me jeter des pierres. Je serais mort sur le champ si un saint homme qui passait par là ne leur avait ordonné de cesser immédiatement. Lui savait pourquoi j'avais pensé au mien lors du violent orage, et il supplia le prince d'oublier sa terreur. Le prince fut aussitôt réconforté et guéri de sa déraison. S'adressant gentiment à ses courtisans, il dit
« Prenez ce daim, lavez-lui bien la tête avec de l'eau et laissez-le aller. »
Ce qu'ils firent. Je m'enfuis aussitôt en bondissant et me retrouvai très vite dans ma forêt natale.
Le voleur d'oignons.
Un voleur fut un jour surpris en train de chaparder des oignons.
Un policier lui lia les mains et le traîna devant le juge qui, lorsqu'il eut entendu toute l'histoire, dit au voleur.
Voilà, je te donne à choisir entre payer une amende de 100 roupies, recevoir 100 coups de fouet ou manger sans oignons. Sinon, tu iras en prison.
Le sot répondit.
Je choisis de manger les oignons.
Et il se mit à la tâche. Quand il eut mangé 7 ou 8 bottes, les larmes coulaient tant de ses yeux, de sa bouche et de son nez qu'il s'écria
« Oh, je ne pourrai jamais manger sans oignons. Ils sont trop amers et piquants. Ah, oh, je n'en peux plus. Je ne peux pas non plus payer les 100 roupies. Il faudra donc que j'endure les 100 coups de fouet. »
Mais à peine les premiers coups reçus, il hurla
« Assez ! Assez ! Oh, je ne peux plus en supporter. Au secours, je payerai les 100 roupies et les intérêts avec. »
Tout le monde se moqua de lui, parce qu'il s'était montré si bête. Non seulement il s'était brûlé la bouche avec les oignons et avait reçu une bonne correction, mais encore il devait payer l'amende. La souris et le moine.
Dans le sud s'élève une ville appelée Bonheur des Demoiselles. Et près de cette ville se dresse un temple.
Et dans ce temple se trouve une cellule. Et dans cette cellule vit un moine surnommé Poil aux oreilles.
Tous les jours, lorsqu'il était l'heure pour lui d'aller mendier, il prenait son bol et parcourait les rues de la ville.
Et tous les soirs, il rentrait au temple, le bol rempli de bonnes choses à manger, qu'il adoucissait avec du sucre et de la mélasse, et parfumait de grains de grenade.
Lorsqu'il avait mangé autant que lui permettait la règle du temple, il laissait le reste dans le bol à l'intention de ses serviteurs, et l'accrochait à une cheville en bois pour qu'il le trouve le lendemain matin.
Mais pendant la nuit, mes amis et moi-même prenions plaisir à voler cette délicieuse nourriture. Poil aux oreilles faisait vraiment de son mieux pour cacher le bol, mais je découvrais toujours l'endroit où il le plaçait. Il en était évidemment très énervé, parce qu'il lui fallait déplacer le bol d'un endroit à l'autre pour brouiller les pistes. Mais même s'il l'accrochait très haut, je parvenais à l'atteindre et je mangeais tout mon content.
Un jour, un autre moine, appelé Grosse Fesse, vint rendre visite à Poil aux oreilles, qui le reçut très poliment et l'installa confortablement. La nuit, les deux moines partageaient la même couche et échangeaient leurs vues sur les règles monastiques. Mais Poil aux oreilles n'avait qu'une idée en tête.
Trouver un moyen pour nous empêcher de voler sa pitance.
Et tandis que Grosse Fesse discourait, Poil aux oreilles préoccupé lâchait à peine un mot ou deux et tapotait nerveusement le fameux bol avec une vieille canne en bambou.
Cela exaspérait Grosse Fesse qui explosa soudain.
Oh, écoute un peu, Poil aux oreilles. Je vois bien que tu ne fais pas grand cas de moi. Tu ne prends même pas la peine de me répondre. Quand je viens te rendre visite à un ami, surtout un très vieil ami, je m'attends à être bien traité. Je m'attends à être salué par des paroles aimables comme « Entre donc, mon ami, assis-toi sur ce siège. Oh, cela fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Mais que deviens-tu ?» Sache que cette maison est la tienne. Je suis enchantée de te voir. Et si un ami est reçu de cette façon, il a lieu de se réjouir. Mais si le maître de maison contemple d'un air distrait le ciel ou ses pieds, je considère que c'est un bien piètre ami, un dégénéré, un taureau sans cornes. Tu sembles bien faire de posséder ta propre cellule, Poil aux oreilles. En vérité, tu es prétentieux. Et tu devrais en éprouver honte et regret.
À ces paroles, Poil aux oreilles s'alarma et dit « Voyons, honorable ami, ne parle pas comme ça. Tu me fais de la peine. Tu es la personne que je respecte le plus au monde. Laisse-moi te dire ce qui m'empêche d'avoir l'esprit libre. Il y a une vilaine petite souris dans cette cellule qui ne cesse de me voler la nourriture que je laisse dans ce bol pour mes serviteurs. Même quand je l'accroche très haut, à cette cheville en bois, elle parvient à l'atteindre. Et ainsi, mes serviteurs n'ont jamais de quoi déjeuner et ne veulent plus travailler. Si je frappe sur ce bol avec ma canne, c'est pour effrayer cette souris. Il n'y a pas d'autre explication à mon impolitesse. En outre, il me faut ajouter que cette souris saute plus haut qu'un chat, un singe ou n'importe quelle autre créature. »
Lorsque Poil aux oreilles eut terminé sa triste histoire, Grosse Fesse lui dit « Où se trouve le trou de cette souris ?»
« Je n'en sais rien, honorable ami. »
« Je suis certain que le trou doit se trouver très près de l'endroit où elle entasse la nourriture volée. Elle semble habile et doit être très leste. À quel moment de la nuit vient-elle ?»«
Cela, je le sais bien, parce qu'elle amène aussi toutes ses amies. »
Grosse Fesse dit alors.
« As-tu une pelle ou un instrument de ce genre ?»«
Bien sûr. J'ai une petite pelle en fer. » »«
Bon, nous nous lèverons très tôt demain matin. » pour relever les empreintes de cette maudite souris, et nous les suivrons.
J'avais écouté sans faire de bruit tout ce que disaient les moines. Je fus grandement surprise de leur projet. Le jeu allait peut-être se terminer. Ils avaient compris que j'avais amassé des provisions et que ma maison devait en être proche. Mes amis et moi-même cherchâmes une autre voie d'accès et il fut décidé d'abandonner l'ancienne piste. Mais hélas, nous fûmes repérés par un monstrueux chat qui nous attaqua sauvagement et réussit à attraper celle d'entre nous qui n'avait pas pu se sauver à temps. Et que croyez-vous qu'il arriva, hein ? Mes compagnes se réunirent et me blâmèrent de l'accident. Elles décidèrent aussitôt de reprendre l'ancienne piste.
Mais certaines souris avaient été méchamment blessées par le chat, de sorte que Grosse-Fesse remarqua vite de petites taches de sang par terre et les suivit jusqu'au trou.
Prenant alors la pelle, il se mit à creuser le sol et découvrit la nourriture volée que j'avais entassée en dessous de mes pénates.
Grosse-Fesse se mit à rire bruyamment devant sa découverte et déclara « Ah, mon cher poil aux oreilles, tu peux désormais dormir tranquille. Ton sommeil ne sera plus troublé. Nous allons supprimer la cause de tes insomnies. »
Et il s'empara de toutes mes provisions.
Puis, les moines rentrèrent dans leurs cellules.
Lorsque je rentrai chez moi et je découvris le malheur qui me frappait, je me lamentai, gémis. Pauvre de moi, que vais-je faire maintenant ? Où puis-je aller ? Plus jamais je ne serai en sécurité. Et je me traînais misérablement le reste de la journée. Au crépuscule, le cœur lourd, je me rendis quand même avec quelques amis dans la cellule de poils aux oreilles. Dès qu'il nous entendit trottiner, il se mit à taper sur son bol avec sa canne en bambou et Grosse-Fesse se moqua de lui.
« Bonté divine, tu vas pas me dire que tu ne peux pas dormir maintenant !» Poil aux oreilles répondit.
« Cette souris de malheur est revenue, mon honorable ami. Avec toute sa clique, je fais de mon mieux pour les effrayer. »
À cela, son compagnon répliqua. « À ta place, je ne ferai pas de soucis. Maintenant que ses provisions se sont envolées, elle n'essayera plus de sauter dans ton bol. » C'est toujours comme ça avec ce genre de bestiole.
J'étais folle furieuse d'entendre cela. Si furieuse que, rassemblant mes forces, je bondis sur le bol. Mais hélas, je ne parvins pas à l'atteindre et retombai sur le sol. Sur quoi, Grosse-Fesse s'écria.
Regarde-moi ça. Regarde cette souris. Elle ne possède plus rien. Ce n'est plus qu'une souris absolument comme les autres.
Je savais qu'il disait vrai. Et je n'avais plus assez de force pour sauter encore. Comme j'aurais voulu ne pas être si pauvre. Mais, pendant que j'essayais de me consoler, je remarquai que Poil aux oreilles, ayant placé la nourriture dans un sac, était en train de s'en faire une sorte d'oreiller. Comprenant que je ne pouvais plus rien faire, je revins penaud à mon trou. L'aube approchait et j'étais complètement épuisée. Le lendemain, je surpris mes amis en train de parler de moi.
« Cette souris n'a plus d'intérêt, » grommela-t-elle. « Elle ne peut plus nous nourrir. » Et c'est par sa faute que le chat nous a attaqués. Laissons-la se débrouiller toute seule.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Et parce que je ne leur apportais plus rien, mes amis m'abandonnèrent. Je réfléchis longtemps à ce qui m'était arrivé. J'étais très malheureuse d'être devenue si pauvre. Je réalisais quand même que la richesse ne servait à rien si elle ne provoquait que des malheurs. Devais-je aller vivre dans la forêt ? Comment allais-je me nourrir ? Je décidai qu'il n'était pas question de mendier. Quant au vol, je ne pouvais plus en supporter l'idée. Je n'avais pas non plus envie de vivre de ce qu'on me donnerait par gentillesse. Non, aucune de ces solutions ne me satisfaisait. Je choisis, en fin de compte, d'essayer de reprendre ce que Grosse-Fesse m'avait volé et qui se trouvait à présent dans l'oreiller. Je n'avais rien à gagner à me montrer timide. Si bien que la nuit même, pendant que Poil aux oreilles était profondément endormi, je m'introduisis dans sa cellule avec une grande détermination et me mis à ronger le sac. Mais il se réveilla en sursaut, saisit sa canne de bambou et m'en frappa. Il m'érafla la tête sérieusement et je m'échappai de justesse. Je dois dire que cela me guérit à jamais de vouloir accéder à la richesse. Je ne tentais plus de récupérer mon trésor ni d'en amasser un autre. Je restais simplement chez moi, me nourrissant de ce que je pouvais glaner ici et là. Thank you.
Le héron et le crabe.
Un héron vivait au bord d'un étang. Comme la vieillesse le gagnait, il avait de plus en plus de mal à trouver sa nourriture. Il se postait sur la berge, mais bien qu'il pût voir très clairement les poissons nager dans l'eau, il n'essayait même plus d'en attraper un. Curieusement, un crabe vivait aussi dans cet étang parmi les poissons. Et un jour, s'approchant du héron, il s'enquit.
« Oncle, pourquoi ne pêches-tu pas aujourd'hui? Et pourquoi as-tu l'air si triste ?»
Le héron lui répondit d'un ton lugubre.
« Avant, il m'était facile d'attraper des poissons et je les mangeais avec plaisir. À présent, je suis vieux et j'ai bien du mal à pêcher. Mais sais-tu le grand malheur qui vous guette ?»«
Quel est ce grand malheur, oncle ?»«
Eh bien, il se trouve que j'ai surpris la conversation d'un groupe des pêcheurs. Ils disent que demain ou le jour suivant, ils viendraient pêcher dans cet étang.
Aujourd'hui, ils lancent leur filet dans le lac qui se trouve près de la ville. Mais s'ils viennent ici, il n'y aura bientôt plus de poissons dans cet étang.
Je mourrai, et toi aussi. Oh, j'en suis si bouleversée que j'en ai l'appétit coupé aujourd'hui. »
Lorsque les poissons entendirent les mensonges du héron, ils furent très effrayés.
Aussi, pensant à leur avenir, ils s'approchèrent de lui et dirent
« Oncle,
père,
frère,
ami,
nous honorons ta sagesse. Si tu sais le grand malheur qui va nous frapper, tu dois également savoir comment y remédier. Nous t'implorons de nous sauver. »
Le héron répondit
« Soyez assez aimable pour vous rappeler que je suis un oiseau. Je ne peux espérer être capable de défendre qui que ce soit, ni vous, ni moi-même, contre ces pêcheurs. La seule chose peut-être que je puisse faire, c'est de vous transporter dans un autre étang plus profond. »
Sans comprendre la ruse du héron, les poissons le supplièrent de faire ce qu'il proposait.
« Oncle,
ami,
noble créature !»
s'écrièrent-ils tous les uns après les autres.
« Emporte-moi d'abord !
Prends-moi le premier !»
Ce vieux coquin de héron ricana dans sa barbe.
« Comme je suis malin. Je tiens à présent tous ces stupides poissons en mon pouvoir. Quel magnifique dîner je vais faire !»
Il accepta avec empressement ce que les poissons lui demandaient et les emporta, un par un, dans son bec jusqu'au sommet d'un grand rocher plat. Et là, il les avala calmement.
Tous les jours, il se livrait à ce manège, trompant les poissons avec de fausses promesses. Le crabe lui aussi commençait à avoir peur et demanda au héron de le transporter dans cet autre étang.
« Oncle, ne m'oublie pas !»
Le héron fit semblant de réfléchir. En fait, il se disait
« J'en ai un peu assez de manger du poisson. Ah, j'aimerais bien savoir quel goût a le crabe. Cela me changerait. Il paraît que c'est un mets d'une grande délicatesse. »
Il prit donc le crabe dans son bec et s'envola avec lui.
Mais le pauvre crabe ne manqua pas de remarquer que le héron évitait soigneusement tous les étangs. Alors que ces derniers allaient se poser sur le grand rocher plat chauffé par le soleil, le crabe murmura
« Oncle, où se trouve cet étang dont tu parlais ?»
Le héron sourit et dit
« Vois-tu ce rocher là-bas ? C'est là que j'ai emporté tous les poissons. Ils y sont en sécurité. Et dans quelques instants, tu vas les rejoindre. »
Le crabe jeta un coup d'œil sur le rocher et vit, à sa grande horreur, qu'il était jonché d'arêtes de poissons.
Il comprit trop tard qu'il avait été trompé.
« Hélas ! »
gémit-il.
« Ce soi-disant ami est en réalité un cruel ennemi. Il a mangé tous les poissons qu'il a emportés. » Je peux voir leur squelette. Ce sera bientôt mon tour. Que puis-je faire? Il n'y a pas de temps à perdre. J'ai trouvé. Avant que je m'écrase sur ce rocher, je vais lui couper le cou avec mes pinces. »
Lorsque le héron comprit l'intention du crabe, il essaya de s'en débarrasser.
Mais il n'était pas très malin. Et malgré tous ses efforts, il ne parvint pas à se libérer de son étreinte.
Bientôt les pinces entamèrent la chair. Puis, soudain, la tête du héron se sépara de son corps.
Après s'être reposé un moment, le crabe se mit en route pour retrouver son étang natal, tirant la tête du héron derrière lui, telle une fleur de lotus.
Lorsque les poissons le virent, ils s'écrièrent
« Oncle le crabe, comment se fait-il que tu sois là? Pourquoi es-tu revenu ? »
Le crabe leur montra la tête du héron et dit triomphalement.
« Voyez, mes amis, il nous a trompés. Savez-vous ce qui est arrivé en réalité à vos frères ? Il les a emportés sur un grand rocher plat chauffé par le soleil et il les a tous mangés. Lorsque j'ai découvert son crime, j'ai attrapé le coquin par le cou et je lui ai coupé la tête. Et je vous l'ai apportée pour que vous la voyiez de vos yeux. Il n'y a plus d'inquiétude à avoir maintenant. Nous pouvons vivre ici, dans notre cher étang, pour toujours, à l'abri et en paix. » Les oies et la tortue.
Une tortue vivait dans un étang. Elle avait deux amis, deux oies, qui s'appelaient Fluette et Pas-Joli. Il arriva qu'une grande sécheresse s'installa dans la région pendant 12 ans. Les oies se dirent
« Notre étang est presque à sec. Il nous faut en trouver un autre. Nous allons d'abord faire nos adieux à notre vieille amie, la tortue. » Quand elles eurent exposé leur intention à la tortue, celle-ci leur répliqua
« Pourquoi venir me dire au revoir ? Cet étang est ma maison. S'il disparaît et que vous me quittiez, je suis certaine de mourir. Si vraiment vous m'aimez, vous devez mettre tout en œuvre pour me sauver. Si vous restiez ici, vous n'auriez rien à manger, mais vous pouvez vivre sans eau, tandis que moi, privé d'eau, je meurs. Quelle est la pire chose, mes amis, ne pas dîner ou perdre la vie ? »
Après avoir réfléchi à ces paroles, les oies répondirent
« Tortue, comme tu es un animal aquatique et que tu n'as pas d'ailes, nous ne pouvons t'emmener avec nous. »
Mais la tortue leur répliqua
« Mais si, il existe un moyen. Allez chercher un bâton. »
Les oies s'exécutèrent et lorsqu'elles revinrent avec le bâton, la tortue leur expliqua
« Je vais m'y agripper avec les dents tandis que chacune de vous prendra une extrémité du bâton dans son bec. Et puis, vous vous envolerez en tenant bien fort le bâton. De cette façon, vous pourrez me porter jusqu'à un autre étang où l'eau sera plus abondante. »
Mais les oies n'étaient pas entièrement convaincues. « Ton idée nous inquiète un peu, parce qu'il suffira que tu ouvres la bouche pour t'écraser sur le sol en 1000 morceaux. »
La tortue les rassura.
« Je vous promets que je ne prononcerai pas un seul mot durant tout le voyage. »
Finalement, les oies acceptèrent cet arrangement.
Mais lorsque les gens de la région aperçurent la tortue portée maladroitement par les deux oies au-dessus de leur tête, ils s'écrièrent
« Regardez !
Regardez ce drôle d'attelage volant !»
Et ils s'interpellaient devant l'étrange spectacle.
Lorsque la tortue entendit les cris et les exclamations des gens, elle oublit sa promesse et ouvrit la bouche pour dire
« De quoi s'étonnent ces gens stupides ?»
Hélas, à peine avait-elle eu le temps de prononcer ces mots que la tortue écervelée se sentit tomber.
Elle s'écrasa sur le sol et mourut sur le coup.
Les habitants de la ville sortirent alors leurs couteaux pour dépecer l'infortunée créature, car c'étaient de grands amateurs de chair de tortue.
Le bazar aux nouvelles. Petite histoire, poème.
C'est-à-dire ?
Conte, récit.
C'est à ouïr.
Le bazar aux nouvelles. Des mots d'auteur. Des voix d'amateurs. Des oreilles d'auditeurs. Soyez tout ouïe, non ?
Non.